envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Bonjour Claire, jeu de rôle ou jeu drôle?
Bonjour Florian, ben écoutez, des jeux de rôle peuvent être drôles également, c'est ce qu'on verra avec notre invité Gianni Manzon qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez un bon moment sur RTN, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite jusqu'à midi. Vous aimez les jeux de rôle, vous êtes au bon endroit car vous allez tout savoir sur cette activité que pratique notre invité puisqu'il est créateur de jeux de rôle. Vous serez gentil hein, Florian, parce que vous avez vu, hein, il y a des accessoires.
Ouais, hein. J'ai vu qu'il y a des accessoires dangereux là, sur la table, il faut faire attention.
C'est comme au Cluedo en fait.
Ou alors ça serait des jeux moins drôles hein, ce matin.
Bonjour Gianni, comment allez-vous?
Bonjour, moi, je vais très bien.
En tout cas, ça nous fait plaisir de vous accueillir dans l'ère de jeu pour partager avec les auditeurs votre passion et surtout votre activité sur ces jeux de rôle. Alors qui dit jeu de rôle, ben, c'est un petit peu mystère, il y a de la fantaisie également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les jeux de rôle?
Oui, alors les jeux de rôle, ce sont des jeux où on va incarner un personnage dans une histoire où, justement, quand vous incarnez votre personnage, vous avez le choix de soit trahir un peu les autres ou de résoudre un peu cette enquête. Et il y aura toujours parmi les joueurs un méchant qui est, par exemple, le meurtrier ou alors les complices du meurtre et des personnages qui sont un peu plus policiers. Et là, au milieu, il y a des convives qui sont pris dans cette toile de mensonges et doivent essayer de s'en sortir, soit en s'alliant avec les meurtriers, soit avec les policiers, ou encore en essayant de se débrouiller, en retournant leur veste un peu tout le temps.
Est-ce qu'on peut dire que, justement, c'est le Cluedo grandeur nature?
C'est un peu ça.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'engouement pour ces fameux jeux de rôle?
Je pense que c'est parce qu'on a le choix d'incarner un personnage, donc un peu de changer sa personnalité. Et ça nous permet aussi de jouer de manière complètement autre de ce qu'on a l'habitude. Par exemple, jouer quelqu'un de vraiment méchant et s'autoriser à faire des mauvaises choses sans que ce soit répréhensible.
Non, on peut commencer tout de suite.
Vous aimeriez incarner quel personnage?
Quand je vois une lampe de poche, un couteau, enfin, si sur la table, là, ça me donne des envies, ouais, forcément.
Oui, alors moi, je me vois bien dans la sœur cadette de la famille, c'est Fiona Stapleton. Voilà. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de parler de ces jeux de rôle. C'est jusqu'à midi que vous pouvez nous suivre en vidéo, si vous le voulez, et découvrir également hein, toutes les...
La panoplie,
tous les objets que a apporté notre invité. Mais pour l'heure, on va passer à notre premier jeu qui est celui-ci.
L'ère de jeu, le défi.
Alors, on le verra également avec vous, Gianni, au cours de cette émission, mais vous avez aussi un autre jeu grandeur nature qui est vraiment aussi impressionnant parce que ben, beaucoup d'enfants y ont joué, mais en jouant à l'extérieur, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est le fameux loup-garou. Et justement, pour le défi photo, ça a un rapport avec ce jeu-là. Dévoiler aux auditeurs le défi du jour. Ils devront nous envoyer des photos sur ce thème. Et ensuite, eh bien, vous allez choisir sur le coup des midi moins le quart la photo qui vous aura le plus séduite. Et ensuite, on appellera le candidat.
Alors, la photo que j'aimerais, ce serait une photo qui se passe en forêt, avec un air assez sinistre, où pourraient se cacher des loups-garous qui seraient prêts à vous attaquer à tout moment.
Ça fait frissonner, hein.
Vous risquez rien dans la forêt du Locle.
Donc voilà, hein, un endroit un petit peu sinistre, comme vous l'avez dit, où pourrait se cacher un loup-garou. Ce sont les photos que l'on attend de vous sur... notre WhatsApp au numéro
079 809 20 20.
10h midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Retour dans notre case mystère ici dans ce studio aujourd'hui puisqu'on découvre les jeux de rôle.
Avec notre invité Gianni Manzon qui est créateur de jeux de rôle. On parle aussi beaucoup d'escape room, hein, c'est aussi à la mode. Quelle est la différence entre ces jeux de rôle et puis les escape rooms?
Alors, les escape rooms, c'est avant tout de se faire enfermer dans une salle où cette salle sera blindée d'énigmes et il faut résoudre les énigmes pour en sortir. Mais on n'incarne pas de personnage. Les jeux de rôle, eux, peuvent avoir des énigmes ou non, mais le but, c'est vraiment d'incarner un personnage dans une histoire. Et là, bah, nous, les histoires qu'on fait, c'est toujours des mystères et des enquêtes. Vraiment à la Sherlock Holmes ou à la Agatha Christie.
Et d'ailleurs, vous êtes technicien en microtechnique hein, de format de métier. Et vous avez, pour votre travail de diplôme, fait justement une maquette. Expliquez-nous ce que vous avez fait par rapport à votre diplôme et l'escape room.
Alors, pour mon travail de diplôme, j'ai aidé à concevoir une salle d'escape room où j'ai dû faire une automatisation de la salle avec un automate du coup qui gère des lasers. Et lorsqu'on passe ces lasers, il y a une alarme qui se déclenche, il y a plein de trucs qui se déclenchent dans la salle. Je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui aimeraient la faire, mais c'est ça que j'ai fait du coup pour mon diplôme.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Gianni Manzon, d'abandonner votre métier de technicien en microtechnique pour vous lancer dans les scénarios et la création de jeux de rôle?
Où il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dérivé jusqu'à là. Mais la chose principale, je pense, c'est quand j'ai fait mon service civil, j'ai travaillé au service de la jeunesse qui est vraiment du coup dans le social. Et lorsque je suis parti de là-bas, j'ai pu faire ma propre animation où j'ai justement fait une murder party pour les jeunes. Et c'est là que j'ai découvert que j'adorais ça et que j'avais quand même un certain talent pour faire ça. Et il y a aussi les jeux vidéo qui m'ont aussi beaucoup conduit là-dedans. Il y a mon amour pour Sherlock Holmes où j'ai lu tous les livres, j'ai fait les jeux vidéo, j'ai regardé les séries. Et vraiment, j'adore cet univers qui est nimbé de mystère. Et quand on commence à creuser, on voit qu'il y a toute une autre réalité de ce qu'on voyait. Je voulais vraiment faire ressentir ça aux gens.
Vous n'avez jamais postulé à la police cantonale pour faire enquêteur ?
Non, mais grâce à moi, ils ont du travail.
Ah, vous avez plutôt postulé dans l'autre côté, chez les clients de la police cantonale de
Château. C'est plutôt ça.
Est-ce qu'il y a des séries TV, justement, qui nous emmènent dans, justement, ces murder parties ?
Ouais, alors il y aurait justement Meurtre et Mystère qui a sur certaines plateformes de streaming. Il y a aussi le film Shutter Island.
Ah ouais, avec DiCaprio.
Avec DiCaprio, exactement, qui met en scène plein de personnes qui se retrouvent au milieu d'un meurtre qui tourne autour et puis le meurtrier se cache parmi eux. Il y a aussi The Thing, le film d'horreur. Bon, là, c'est plus avec un alien extraterrestre, mais ils se cachent parmi les convives et ils essayent de deviner qui est la chose au milieu de ça. Donc ça reste quand même une murder party.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Envie de prendre l'air, envie de meurtre aujourd'hui avec les jeux de rôle présentés par Gianni.
Effectivement, Gianni Manzon est l'invité de l'air de jeu pour parler de jeux de rôle. J'ai une question, est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez joué justement au jeu du Cluedo ?
J'ai joué au jeu du Cluedo. J'ai joué à la toute première version, il n'y avait qu'un scénario et c'est toujours le colonel Moutarde qui est le méchant. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de scénarios et ils ont bien enrichi ça, j'ai trouvé.
Alors, pour en revenir à vos créations de jeux de rôle, comment vous puisez pour l'écriture des scénarios ? D'où vous vient l'inspiration ?
Ben, il les fait en réalité.
Je m'entraîne déjà sur les gens avant de les faire. Non, ça me vient vraiment de tout et n'importe quoi. Ça peut être une série, ça peut être un film, ça peut être des jeux vidéo, un livre. Ça peut vraiment me venir de n'importe quoi. Et ensuite, je mets tout ça sur papier. Je commence à écrire d'abord l'histoire. J'écris les personnages et ensuite, je fais les liens entre les personnages de ce qui pourrait s'aimer, ne pas s'apprécier, avoir un but pécunier là-derrière. Ça peut vraiment varier de tout et n'importe quoi.
Oui, il faut avoir vraiment de l'imagination. Et en principe, dans une murder party, il y a combien de personnages ?
Où ça peut dépendre. Les plus petites murder parties peuvent avoir 5 personnages et la plus grande que j'ai faite, c'est jusqu'à 80 personnages.
Ah ouais, quand même. Alors, par exemple, si chaque personne reçoit un petit carnet, hein, comme celui que j'ai dans les mains, celui que vous avez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur ?
Alors, à l'intérieur, la toute première page vous indique comment jouer votre personnage, ses traits de caractère. Par exemple, le mien, il est assez discret, il a des bonnes manières, il est un peu simplet. Donc, quand on le joue, il faut croire tout ce qu'on nous dit et répéter vraiment tout ce qu'on entend.
Alors, la mienne, Miss Fiona, elle est hautaine, ambitieuse, sadique, respect de la noblesse, elle est calculatrice aussi. Waouh, mais dis donc, quand il faut incarner un tel personnage.
Puis ça défoule aussi d'incarner un personnage qui est mauvais.
Et ensuite, alors, comment ça se passe? Les personnages sont réunis dans une pièce et ensuite, ben, qui raconte l'histoire, en fait?
Alors, celui qui raconte l'histoire, ça va être le maître de jeu, donc par exemple moi, qui vais décrire l'histoire, par exemple, là, du manoir Stapleton, donc comment vivent ces personnages, quel est leur métier, qu'est-ce que fait cette famille. Et dans quelle ère on est? Par exemple, là, ça se passe dans l'ère victorienne, donc les fins des années 1900. Et quand on se rejoint tous, tout le monde lit son petit carnet qui indique du coup comment jouer son personnage. Qu'est-ce que le personnage connaît des autres, par exemple?
Ah ouais.
Est-ce que ton personnage est copain avec le mien ou alors pas du tout? Est-ce qu'il faut que je me méfie de toi? Et aussi, quelle est l'histoire de mon personnage? Qu'est-ce qu'il a fait avant cette histoire? Et qu'est-ce qu'il a fait avant les actions du crime qui a été commis?
Ah ouais, c'est impressionnant. Alors par exemple, pour mon personnage, au début de la partie, il faut que j'accompagne le notaire Bertrand au bureau et que je montre que je suis dévastée par la mort d'Émilie.
Voilà.
Alistair va sûrement faire pareil. Je dois m'assurer que Bertrand ne manque rien à son confort.
Donc, dans l'histoire, c'est que ces deux personnages, donc Alistair et Fiona, sont frères et sœurs, et la petite sœur cadette est morte alors qu'un héritage doit être désigné. Et ce notaire, Bertrand, justement, c'est lui qui a le plein pouvoir sur cette famille. Et Fiona, qui déteste autant sa défunte sœur que son frère, va devoir faire semblant d'être copine avec son frère, alors que bah, ils vont que se faire des crasses derrière.
Je savais pas que vous étiez une telle peste.
Vous avez vu, hein, l'apparence.
Elle peut jouer son petit rôle, hein, de temps en temps. Hein.
Mais c'est vrai que ça doit pas être évident que d'incarner des personnages de cette façon. Oui, il y a un temps de préparation quand même.
Oui, alors au début, chacun lit son personnage, il va se présenter aux autres dans la peau de son personnage. Et généralement, la première heure de jeu, là, c'est flou parce qu'on apprend justement à jouer son personnage. Mais dès qu'on commence à faire des interactions avec les autres et que les mécanismes se mettent en place, ça vient tout seul. N'importe qui peut jouer son rôle.
Bon, alors, mon cher Florian, nous allons passer à la suite.
Ouais.
Et si ça commence, ça y est. Si vous le voulez bien.
Enlevez-lui ce bouquin parce que là, on ne va pas s'en sortir.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Moi, je peux vous dire que dans ce studio, on se prend au jeu de rôle, hein, ici, parce qu'on commence à chercher des musiques de mystère, on a quelques objets loufoques sur la table.
On a évoqué donc les Murder Party avec les personnes, les personnages. Est-ce qu'il y a aussi des costumes? Est-ce qu'on est costumé selon l'époque? Et comme au Cluedo, j'imagine qu'il y a aussi des accessoires.
Alors oui, alors il n'y a pas vraiment de costume qu'on donne nous, mais c'est toujours bien d'amener toujours son petit costume, par exemple là dans l'époque victorienne, c'est toujours bien, déjà c'est beau, et en plus ça permet mieux d'incarner son personnage et de poser une ambiance. Et dans les objets, il y a, nous on utilise des cartes qui symbolisent les objets qu'on va utiliser, et ces cartes, on peut s'amuser à les mélanger avec d'autres, un peu comme un jeu de société, où une fois qu'on a trouvé l'arme, par exemple un couteau ensanglanté qui serait l'arme du crime, les meurtriers peuvent récupérer ce couteau et faire une action avec cette carte avec une autre, par exemple de la javel, histoire d'enlever le sang et empêcher les policiers de faire des analyses pour voir s'il aurait resté des empreintes dessus, à qui appartenait le sang, si c'est bien l'arme du crime, si c'est pas juste le couteau du cuisinier qui a coupé un bon rhum steak. Ça permet aux meurtriers de s'en sortir un peu mieux.
Il y a d'autres objets sur notre table. Alors, il y a une torche, il y a aussi une seringue.
Alors, la torche, c'est une torche UV. Donc, qui révèle, par exemple, de l'encre invisible qui serait sur des parchemins cachés. Mais aussi, on utilise ça pour dessiner sur les objets des empreintes qui appartiennent au personnage. Donc ça, normalement, la police uniquement peut l'utiliser, sauf si ça l'a fait shipper par quelqu'un d'autre. Et elle peut alors révéler les empreintes qui sont sous forme de cartes. Ensuite, elles viennent les chercher. Et ça leur permet de voir qui a tenu quel objet à quel moment.
Et la personne qui mène le jeu, ben là, on a une photo sur nos écrans avec un meneur de jeu qui, là, vraiment est stylé. Hein.
Oui, il a bien pris le thème au mot. Donc, il a mis un joli corset. Il a pris une canne pour jouer, justement, le notaire qui est dans la noblesse. Et il a eu Beaucoup de plaisir à jouer le méchant.
Vous avez aussi un classeur à côté de vous avec des photos. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra et nous expliquer ce que c'est ?
Alors, ce classeur, en gros, comme on fait nos activités un peu partout, on n'a pas vraiment de quoi à chaque fois habiller les salles de manière victorienne, ni la place nécessaire. Donc, ce sont en gros des chambres fictives où, normalement, il y a un cadenas qui bloque le classeur et seule Fiona a la clé pour ouvrir cette chambre. Parce que c'est sa chambre, en gros. Mm-hmm. Une fois qu'on entre dans cette chambre, on a divers lieux où aller. Et sur les feuilles, on a une description de la salle qui révèle un peu la personnalité de Fiona. Et les objets qui ont été déplacés. Par exemple, là, on peut voir une bouteille de vin qui a été préparée pour le notaire. Et là-dedans, il y a des numéros cachés qui nous permettent de découvrir des objets qui sont sous forme de cartes, toujours, que la police ou alors d'autres personnes qui se seraient introduites dans cette chambre peuvent récupérer pour cacher les preuves ou les modifier.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Gianni Manzon est l'invité de l'air de jeu. Il est créateur de jeux de rôle. Alors, les jeux de plateau, hein, ouais, comme le Cluedo, il y en a eu quand même quelques-uns et ça date quand même pas d'hier. C'est beaucoup plus ancien.
C'est beaucoup plus ancien. Je crois que les premiers vraiment jeux de rôle, ça fait partie de Donjons et Dragons, donc qui existent maintenant depuis 50 ans. Sauf qu'à l'époque, c'était très caché. On voyait vraiment ça comme un peu les nerds, les gens bizarres qui jouent dans leur cave. Ils incarnent des nains, des elfes, c'est un peu bizarre. Alors que maintenant, ça devient de plus en plus démocratisé.
Et justement, pour les personnes qui ont toujours rêvé de mener des enquêtes, ben justement avec toutes les séries télé qu'on voit, des fois on essaie de se mettre dans la peau des personnages. Là, c'est vraiment quelque chose de concret.
Là, c'est quelque chose de concret parce qu'on va vraiment questionner des autres joueurs qui incarnent leur rôle et on va les forcer vraiment en jouant le bon flic, le mauvais flic, toutes les techniques qu'on voit justement dans les séries. Et c'est ça qui est rigolo, c'est vraiment toutes ces interactions et comment peuvent réagir les gens face à ça.
Vous qui écrivez les scénarios de toutes ces histoires, quelquefois ça doit vous surprendre, ça doit vous faire rire aussi.
Oui, parce que je regarde ça en tant que maître du jeu, je n'interviens pas vraiment dans le jeu, sauf si on me pose des questions. Et des fois, quand je vois, je prévois toujours à peu près 5 fins différentes par rapport à ce qu'arrivent à faire les gens. Et on arrive toujours à m'étonner en jouant vraiment le personnage à son paroxysme, donc vraiment en s'énervant, en allant contre les gens et puis en les empêchant carrément de jouer des fois. Il y a toujours des fois où je dois me retenir de rire vraiment, parce que les héritiers se font des crasses dans le dos du notaire, il faut que je me retienne d'exploser de rire pour éviter de compromettre leur couverture.
Comment les gens ressortent de ces jeux-là? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ils ressortent avec plein de discussions, du genre « Ah, tu m'as bien eu sur ça, j'aurais dû mieux réfléchir, j'aurais dû devoir venir en me mentant à ce moment-là. Ah, en fait, vous n'étiez pas du tout complice dès le début, moi je le croyais parce que lui m'a dit ça. » C'est toujours plein de discussions sur comment on aurait pu tourner l'histoire.
Est-ce que ça peut durer des heures et des heures ou quand même il y a un certain temps qui est donné pour ces histoires, pour en découvrir l'énigme?
Je limite l'histoire à 3 heures, mais les gens pourraient jouer beaucoup plus. Surtout les policiers, parce que c'est à partir de la deuxième heure où vraiment tout s'engraine et on commence à comprendre un peu les fils qu'il y a derrière l'histoire. Et les gens pourraient vraiment jouer beaucoup plus, peut-être 1 ou 2 heures en plus, vraiment, pour avoir toutes les solutions.
Ils s'inventent les textes ou ils continuent à inventer l'histoire? Parce que vous n'avez pas finalement 2-3 heures de texte à apprendre ou à réciter.
Non, alors vraiment, dans le texte, on a peut-être 20 minutes à lire pour comprendre qui est son personnage et quels sont nos objectifs. Mais après, c'est vraiment au choix du joueur d'inventer. Il peut vraiment mentir de A à Z et s'inventer une autre histoire. Ou alors, un peu faire alambiquer, il dit un peu de vérité, il dit un peu de mensonge, ou il dit complètement la vérité, et puis il essaie de voir qui peut se faire comme allié.
Il faut vraiment être, pas forcément comédien, mais ça ne doit pas être évident de se mettre dans la peau d'un personnage comme ça.
Non, au début, ce n'est pas évident, mais on se prend très vite au jeu par l'ambiance en fait, qui découle. Puis à chaque fois que des gens nous parlent, parce qu'on a toujours finalement le petit carnet avec nous, donc on peut le regarder à n'importe quel moment, et on se laisse vraiment porter par le récit.
Et c'est pour ça que vous avez prévu plusieurs fins pour justement délimiter le temps.
C'est ça. Et c'est surtout pour permettre aux joueurs d'être maîtres en gros de leur histoire.
Et parce que Fiona Claire Chapat ici présente, elle jouerait un rôle assez longtemps là, j'imagine. Ça vous plaît, hein?
Ah, ça me plaît ça, oui. J'ai envie d'essayer.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Jusqu'à midi, on vous fait peut-être un peu peur hein, avec ces jeux de rôle, une lampe torche UV pour voir les ce qui a été peint sur les murs ou les fantômes qui vont apparaître. Hein, on va aller savoir un peu. Avoir beaucoup d'imagination dans ce
jeu
de rôle.
Et oui, mystère et fantaisie.
Et boules de gomme.
De ce matin dans l'air de jeu avec notre invité Gianni Manzon. Est-ce qu'on peut imaginer de tels scénarios, de telles histoires pour des jeunes ? Et à partir de quel âge est-ce que vous conseillez que les enfants peuvent jouer ? Et est-ce que le scénario est le même ou c'est différent ?
Alors, c'est adapté pour les enfants. J'ai déjà fait pour des enfants de 10 à 18 ans qui jouent ensemble. Et bon, au début, c'est assez chaotique parce qu'ils courent dans tous les sens et puis ils aiment beaucoup jouer un personnage, surtout jouer les méchants. Et vu qu'il y a des objets à disposition aussi, c'est le premier truc qu'ils font, c'est chercher tous les objets. Et une fois qu'ils ont tout ça, ils commencent de plus en plus à jouer leur personnage et ils jouent assez bien, je suis assez étonné. Et même dans la recherche de l'énigme, qui ne change pas du tout pour les enfants, ils ont à peu près les bonnes résolutions à la fin. Et même ceux qui jouent les méchants arrivent à berner tout le monde et ils le font assez bien.
Mais là, est-ce qu'on parle également de meurtre ou c'est plus... un autre sujet qui est proposé pour les enfants ?
Non, j'utilise le même sujet. Ce n'est pas un truc qui les effraie parce que c'est vraiment une histoire. Donc, on est vraiment plus dans un contexte de jeu où ils savent qu'on fait semblant.
Et les enfants, ben voilà, ils ont cette spontanéité. Et justement, est-ce qu'ils arrivent plus facilement que les adultes à résoudre les enquêtes ?
Alors, je dirais qu'à la recherche des objets et à comprendre comment utiliser les objets, ils sont plus forts que les adultes. Par contre, dans le cas de la réflexion, surtout pour les policiers, ils ont quand même besoin d'un adulte pour les guider dans la réflexion. Sinon, ils partent dans tous les sens et les meurtriers arrivent trop facilement à les berner.
Vous parlez d'objets qui sont cachés dans des pièces. C'est toujours le même nombre et c'est selon les histoires que vous proposez ?
C'est selon les histoires que je propose, car la mécanique est complètement différente d'une histoire à une autre. Et là, pour le manoir de Stapleton, on a pas mal d'objets à mélanger qui vont dans tous les sens et des fois des fausses pistes aussi.
On va se retrouver après les informations de 11h. Mais vous savez quoi, Florian, moi, je pense à quelque chose.
Dites-nous.
Ça serait cool de faire une fois un scénario avec une histoire qui se passe en radio.
Il faudrait imaginer ça, ouais, c'est vrai. Une
ouais,
fois.
Hein
faire un jeu de rôle en direct.
Oui, non, mais j'entends, mais qu'il y a...
J'ai déjà les bruitages de cris, de meurtre.
Oui, mais voilà, exactement. Ça serait cool de... Voilà, vous inventez une histoire qui se passe dans une radio où il y a eu un meurtre.
Jusqu'à midi... L'air de jeu.
Avec meurtre et mystère.
Vous avez un rire sadique, Florian.
Ah, moi, ça me plaît.
Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTN, soyez les bienvenus. Il nous reste une heure à passer ensemble avec notre invité Gianni Manzon, qui est un créateur de jeux de rôle. On a vu hein, dans la première heure les jeux de rôle avec ces fameuses murder parties. Mais là, vous avez également le fameux loup-garou. Alors, c'est vrai que tous les enfants ont joué une fois, hein, lors d'un anniversaire ou autre, en famille, à ce fameux jeu du loup-garou. Est-ce que vous pouvez rappeler aux personnes, ou apprendre aux personnes qui ne le connaîtraient pas, ce qu'est le fameux loup-garou ?
Alors, le jeu du loup-garou, c'est un jeu qu'on peut trouver un peu partout. Et on va être un personnage qui a une carte et une compétence dans ce jeu. Le maître du jeu va nous réveiller dans un cycle de jour et nuit. Et durant la nuit, on va s'endormir et dès qu'on est appelé, on peut utiliser notre capacité. Le but est de trouver les loups-garous qui se trouvent parmi nous et qui essayent de manger le village. Et dès que le jour se lève, on peut alors discuter avec tout le monde, théoriser, complotiser avec tout et n'importe qui, afin de retrouver les loups-garous. Ou alors les loups-garous peuvent nous monter les uns contre les autres et finalement c'est... la discorde qui aura raison du village.
Donc c'est le fameux loup-garou de Tiercelieu. Tiercelieu, c'est un village qui existe ou c'est un village fictif ?
Non, c'est un village fictif, c'est comme dire le village de nulle part.
C'est le jeu de cartes hein, dont vous nous avez expliqué le principe. Quels sont les personnages du jeu du loup-garou ?
Oui, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 30 voire 40 avec les extensions qu'il y a avec le jeu. Mais les principaux sont bien sûr les loups-garous qui cherchent à manger le village et ceux qui défendent le village. Il y a par exemple le Salvateur qui, lui, protège de la morsure des loups-garous chaque nuit. Il y a la sorcière qui peut éliminer un joueur ou en soigner un. Il y a le chevalier à l'épée rouillée qui peut emporter un loup-garou avec lui dès qu'il se fait attaquer. Le chasseur qui est éliminé par n'importe quelle raison peut tirer sur quelqu'un en espérant que ce soit un loup-garou. Donc il y a pas mal de personnages qui sont offensifs, défensifs ou qui sont de soutien.
On se met dans l'ambiance, Claire ?
Oui, mais...
Je suis le chef des loups-garous. Je recherche une petite blonde, Fiona. Est-ce que vous l'avez vue, Gianni ?
Je crois qu'elle est partie par là, mais je vous dis exactement où elle est partie si vous ne me faites pas de mal.
Alors, je vous mangerai en dernier.
Ah, du coup, ça me laisse le temps de courir. Du coup, elle est partie par là.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
On a passé la nuit, Claire, c'est bon, on peut se réveiller tranquillement.
Les loups se réveillent.
Ouais, puis en plus, maintenant, elle va devenir sorcière bientôt.
Toujours avec notre invité, Gianni Manzon, créateur de jeux de rôle. Et puis là, on est passé au fameux loup-garou, hein, ce jeu que les enfants connaissent bien. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce jeu Grandeur Nature ?
Alors, à la base, c'est l'idée d'un ami qui m'a rejoint dans cette aventure. Et lui, il faisait ça pour les enfants et surtout pour le festival de l'UDESCO. Et petit à petit, quand il m'a rejoint, bon, on a encore amélioré ce jeu et depuis, on le fait quasiment en forêt.
Alors, justement, l'avantage, c'est que ça se passe dans la nature, d'où le thème du défi photo de cette semaine où il faut nous envoyer des endroits un petit peu sinistres d'une forêt où pourrait se cacher le fameux loup-garou. Pour ce jeu-là, est-ce qu'il y a aussi des accessoires ?
Alors oui, nous, on y rajoute des accessoires. Par exemple, là, la carte du chevalier à l'épée rouillée. Il a un couteau rétractable avec lui. Donc, la personne qui le joue va le garder discrètement dans sa poche. Et dans ses consignes, dès qu'un loup-garou l'attaque, il a le droit de se réveiller, de dégainer son épée, de venir pourfendre le loup-garou. Et du coup, l'emporte avec lui au cimetière.
Parce qu'il faut bien préciser, toutes les actions se passent quand les personnes sont endormies, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Voilà, pour pas qu'on découvre tout de suite qui est qui, quoi.
C'est ça. Pendant la nuit, on garde les yeux fermés et on ne les ouvre que si le maître de jeu appelle notre rôle.
Ensuite, ben voilà, ça c'est la fameuse sorcière, attendez. Voilà, alors elle a sa carte, hein, de la sorcière, il y a une bouteille et puis là il y a une seringue, c'est quoi tout ça ?
Alors dans le jeu de base, la sorcière a deux potions à utilisation unique. Elle a une potion de vie qui permet de soigner quelqu'un de la morsure des loups-garous et une potion de mort pour éliminer quelqu'un. Donc là, dans ces objets qu'elle aura de nouveau sur elle, la petite fiole, c'est la potion de vie qui sera remplie d'eau. Elle peut venir déposer ce liquide sur la main de celui qui s'est fait mordre par les loups-garous. Donc en plus, ça peut laisser des traces au sol, donc on sait qui a été soigné. Et la seringue, s'en équipe, elle va piquer l'épaule de quelqu'un qu'elle pense être loup-garou, ou alors quelqu'un de malveillant.
Les loups-garous, c'est comme dans le jeu de plateau, le jeu de cartes. Y a un certain nombre de loups-garous.
Il y a un certain nombre de loups-garous, c'est généralement un tiers des joueurs qui est loup-garou. Et dans la version grandeur nature qu'on fait, on n'est pas assis, on ne se tient pas en cercle. C'est debout et dans un espace de jeu qui se trouve dans la forêt. Et dès qu'on est réveillé, on va pouvoir aller se déplacer jusqu'à notre cible, notre pouvoir, pour lui administrer par exemple la potion de soin. Et quand on joue loup-garou, tous les loups-garous se réveillent en même temps, ils vont se faire des signes pour s'accorder sur leur victime, et l'un d'eux va se déplacer furtivement jusqu'à leur victime, la griffer sur l'épaule et revenir là où il était.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Bon, ben on a trouvé un loup-garou en route, hein, quelque part dans le canton de Neuchâtel, qui s'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Bonjour Sylvie, comment allez-vous ?
Ça va bien, ça va bien.
Est-ce que vous aimez les jeux de société ?
Oui, j'aime beaucoup.
Est-ce qu'il y a un jeu auquel vous aimez jouer en famille ?
Alors, bon, j'aime beaucoup jouer au chibre. Je fais des tournois de chibre et ouais, j'aime bien les jeux de cartes.
Ah, d'accord. Est-ce que vous avez déjà essayé des jeux de rôle ?
Oui, ça m'est arrivé, mais pas beaucoup.
Est-ce que le Cluedo, c'est un jeu que vous avez joué en famille aussi ?
Oui, une ou deux fois.
Oui, alors c'est vrai qu'en grandeur nature, ça doit être pas mal. Hein. Et puis, il y a ce fameux loup-garou, hein, dont on parle maintenant. Mais là, on va jouer avec vous, ma chère Sylvie. C'est le jeu que vous avez choisi, c'est celui-ci.
L'air de jeu,
le blind test.
Vous allez écouter trois extraits de chansons. Il y a une question à chaque fois. Si vous me donnez trois bonnes réponses, vous aurez une carte cadeau lundi de 30 francs. Deux bonnes réponses, 20 francs. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
De quelle chanson, sortie en 1983, cet extrait correspond-il?
Un sourire très connu, hein.
Alors, vous avez la chanson.
Alors, c'est une chanson allemande.
Non, c'est pas une chanson en allemand. Non. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, vous aviez pensé à Rammstein?
Oui.
Non, alors
enfin, Ouais.
Alors, c'est un album qui est sorti en 1983. C'est l'album qui a été le plus vendu au monde, hein, jusqu'à maintenant. Et la personne que vous entendez, hein, qui parle et qui rigole dans cette chanson, c'est un ancien acteur de films d'horreur qui nous a malheureusement quitté en 1993. Il s'agit de Vincent Price.
Ah, alors je ne savais pas.
Mais non, mais c'est voilà. Mais, voilà,
la chanson, c'était Michael Jackson. Mais, hein.
Voilà, alors quel est le titre de cette chanson?
Ah ouais, ok, mais maintenant que vous le dites, c'est Michael Jackson, mais voilà, vous l'avez dit.
Oui, mais non, mais le titre, il faut le titre de la chanson.
Ah, Thriller.
Voilà, ouais. Effectivement. Ouh,
on l'a bien aidé. Là,
on l'a bien aidé. Attention, on passe.
Oui, vous m'avez bien aidé, merci.
On passe au deuxième extrait. À quel chanteur doit-on ce titre qui est sorti en 1975?
Je rentrais de gala avec mes musiciens quand une grosse bête apparut sous la pluie, faisant de l'autostop comme un vulgaire humain. Je lui ai dit monter, il m'a répondu, je suis le loup-garou.
Le Bougalou du Loup-Garou. Effectivement, c'est Carlos. Attention, tout va se jouer. Tout va se jouer avec la dernière proposition. Quel groupe irlandais a connu le succès en 1994 avec cette chanson?
Et Sylvie, vous nous dites?
Ah, je vais dire n'importe quoi parce que je ne suis pas tout à fait.
Alors, pensez. On est sympa, non. On va vous aider. Pensez à un fruit rouge. En français, on pourrait appeler ça la canneberge.
Ouais. Ah oui.
C'est le nom français.
Canneberge. Oh là là.
C'est un groupe qui a vraiment fonctionné. Malheureusement, je crois, la chanteuse est décédée. Et puis, il y a un groupe, The Wolves, qui avait repris cette chanson pour un hommage à la chanteuse de ce groupe, qui sont les... Vous ne voyez pas?
Cranberries.
Les Cranberries. Bravo Sylvie. Voilà. Vous remportez cette carte cadeau lundi de 30 francs. Et puis, merci d'avoir joué avec nous, d'avoir pris le temps.
Merci beaucoup.
Et on vous souhaite un bon dimanche.
Bon dimanche, au revoir.
Merci, au revoir Sylvie.
Faites attention aux forêts Sylvie, il y a des loups-garous qui se baladent.
L'air de jeu, jusqu'à midi. Avec Claire et Florian.
Et le loup-garou qui est avec nous, Gianni, aussi présent dans ce studio pour nous parler justement de ces jeux de rôle.
Effectivement, mystère et fantaisie avec des murder parties, des repas meurtres et puis loup-garou dont on parle maintenant. C'est ce que vous proposez puisque vous êtes donc créateur de jeux de rôle, Gianni. On en est donc au loup-garou. Pour le jeu du loup-garou, est-ce qu'il y a un narrateur? Comment ça se passe?
Alors, il y a effectivement un narrateur et quelqu'un qui se charge de la technique. Le narrateur, lui, va se déplacer entre les gens et les réveiller un par un, suivant le rôle. Il va par exemple dire « La voyante, tu peux te réveiller ?» et lui rappeler son rôle en lui disant « Tu peux t'approcher de quelqu'un, poser ta main sur son épaule pour qu'il sorte délicatement sa carte, toujours les yeux fermés, jusqu'à ce que tu voyes quel rôle il est. » Une fois que c'est fait, tu peux retirer ta main de son épaule et la personne peut ranger la carte dans sa poche.
Vous jouez à ces jeux du loup-garou en forêt, hein, comme on l'a dit, grandeur nature. À quel moment de l'année et quand? Le matin, le soir, la nuit?
Alors, on essaie de faire ça tout au long de l'année, sauf pendant les vacances d'été. Et on fait toujours ça, enfin on essaye en tout cas, de faire toujours le dernier samedi du mois. Et durant le printemps, on fait plutôt ça durant la journée, car sinon après, il fait quand même assez froid dans les bois le soir. Et sinon, en été, bon, on fait ça plutôt le soir et on passe même des fois la nuit dans la forêt et puis on repart à 8h du matin.
Alors, il y a un campement, j'imagine.
On dresse un campement, oui. On a une connaissance qui fait partie aussi de cette aventure ou qui est très, très douée dans, en forêt ou pour bivouaquer. Et on dresse un campement avec le feu, des protections et une grande bâche qu'on tire entre les arbres au cas où il pleuvrait.
Ça doit être, quand il pleut comme ça, ça ne doit pas être évident. Et là aussi, est-ce que les enfants peuvent prendre part à ce jeu du loup-garou ou c'est vraiment que pour les adultes?
Alors les enfants peuvent prendre part des 12 ans, mais on a principalement un public d'adultes qui viennent jouer.
Pourquoi?
Je sais pas, peut-être parce que ça se passe plutôt en forêt et puis les adultes préfèrent avoir cette ambiance forestière que les enfants, je ne saurais pas dire.
Parce que, en fait, c'est vrai que le jeu qu'on connaît, hein, le jeu de cartes, le jeu de plateau, ça s'adresse aux enfants à partir de quoi, 7-8 ans?
Ouais, c'est assez jeune. Je crois que c'est 7-8 ans, ça doit être par là.
Et puis donc, comme on l'a vu, hein, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Florian, ça se termine par une bonne fondue.
Ça se termine par une bonne fondue qu'on fait au feu de bois. On apporte un brasero, on récupère du bois dans la forêt. Ou alors, s'il est trop humide, on en prend nous avant. Mais sinon, on récupère du bois dans la forêt, on apporte des haches, on apprend aux gens à comment couper du bois et à faire du feu. Et ensuite, on suspend une marmite avec de la fondue au-dessus.
Du fromage régional, hein, on le voit sur la photo.
Tout à fait.
C'est la petite fourchette qui vous a trahi, là.
C'est un petit peu un Koh-Lanta forestier loup-garou, hein, puisqu'il faut apprendre à se débrouiller.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
On a trouvé un autre loup-garou dans la forêt, Claire.
On a trouvé Pierre qui est avec nous. C'est la photo que a choisie, et c'est votre photo qui a été choisie par notre invité Gianni Manzon. Ah. Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous?
Oh, ça va très bien, mon Dieu bleu.
Ah ben, c'est bien, vous habitez où?
À Neuchâtel-la-Coudre.
D'accord, et vous avez envoyé une belle photo de forêt. Décrivez-nous votre photo, Pierre.
Ben écoutez, c'est un petit peu de la triche parce que j'avais pris ça sur mon balcon. Et puis, comme j'avais une fleur qui avait poussé et puis ça avait donné beaucoup de fleurs, de feuilles, je me suis dit pourquoi pas.
Ouais, on dirait une soucoupe volante avec un extraterrestre qui arrive sur cette photo.
Voilà, c'était le lever du soleil.
Eh bien justement, on va donner la parole à notre invité Gianni Manzon. Pourquoi vous avez choisi cette photo? Ça a été très compliqué de choisir.
Ça a été très compliqué, mais ce qui m'a convaincu, c'est un peu cette impression justement qu'on a des yeux incandescents qui traversent le ciel et qui viennent sur cette végétation.
Voilà. Parce que là, ça m'avait flashé. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Non, ouais, on verra jamais ce qu'ils disent. Hein.
Mais c'est vrai que le loup-garou, il pourrait se cacher parmi les feuilles.
Ouais, tout à fait.
Eh bien, en tout cas, bravo Pierre. Merci d'avoir envoyé votre photo. Vous découvrirez bien sûr toutes les photos du défi cet après-midi sur notre galerie photo. Et puis celle de Gianni également. Et vous allez remporter donc une carte cadeau de 20 francs de chez Landy, Pierre. Merci d'avoir joué. À bientôt.
Merci bien beaucoup. Bonne
journée
à vous.
Merci.
Jusqu'à midi. L'air de jeu.
Et le temps passe tellement vite ce matin qu'on va bientôt renvoyer le loup-garou à la maison.
Gianni Manzon, notre invité ce matin dans l'air de jeu pour parler de jeux de rôle, mystère et fantasy autour de ce thème. On a vu donc le loup-garou où on peut jouer à beaucoup de personnes.
Oui, on peut jouer à vraiment beaucoup de personnes. Nous, on fait maximum 26 joueurs. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin, même après les parties s'éternisent.
Il y a aussi ce que vous appelez les repas mystères. C'est quoi la différence entre les repas mystères et la murder party?
Alors les repas mystères, eux, se déroulent autour d'une table, simplement dans un restaurant, dans un bar, chez soi, sur la terrasse. On ne se balade pas dans un espace de jeu ou un bâtiment. On s'asseye à une table et les joueurs ont, comme dans la murder party, un petit carnet avec dedans comment ils doivent jouer leur personnage, mais à la différence où l'histoire, cette fois-ci, est découpée en chapitres. Ces chapitres donnent en gros les souvenirs que possède le personnage de l'aventure qui s'est passée avant le meurtre. Et tout le monde va discuter chapitre par chapitre de ce qu'il a vu en donnant la vérité complète, en omettant des informations ou en mentant si on est le coupable.
Mais là, c'est toujours les gens qui jouent leur rôle, parce qu'on a connu dans certains restaurants où ils organisaient justement des soupers mystères, mais où il y avait des acteurs.
Alors oui, c'est toujours les joueurs qui incarnent vraiment leur personnage. Moi, je n'utilise jamais d'acteurs, il n'y a que des maîtres de jeu qui aident justement les joueurs. Mais là, c'est vraiment complètement les joueurs qui sont maîtres de leur histoire.
Et puis, il y a aussi des policiers, comme dans la Murder Party, il y a différents personnages.
Il y a différents personnages, chaque personnage est différent, chaque personnage a son histoire, a son intérêt de participer à son histoire, comme là c'est une crypte de nécromanciens, donc pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu les magiciens qui utilisent les arts occultes, qui manipulent la mort, etc. Et c'est une troupe d'aventuriers qui va à l'intérieur pour récupérer des trésors et s'enrichir.
Et là aussi, vous pouvez, concevoir plusieurs scénarios.
Oui, complètement. Là, je suis en train de concevoir un scénario sur le western, par exemple, où c'est des bandits qui retrouvent un autre bandit qui les a tous bernés et qui a caché le magot de tout le monde.
Et là, il y a forcément toujours un meurtre. Ou est-ce que ça peut être, justement, comme vous l'avez évoqué, le vol d'un bien, d'un trésor?
Ça part toujours d'un crime. En tout cas, ça peut être un vol, ça peut être un braquage, un meurtre, une trahison. Ça peut être beaucoup de choses.
Est-ce qu'il y a encore des jeux que vous aimeriez inventer? Qu'est-ce qui vous tient à cœur?
Il y a beaucoup de jeux que j'aimerais bien inventer. J'aimerais aussi
créer grandeur nature.
Et j'aimerais surtout faire un jour une chasse au trésor à La Chaux-de-Fonds. Car La Chaux-de-Fonds a une histoire quand même assez forte. Elle a beaucoup de points d'intérêt. Et ça, pour une chasse au trésor, c'est le paradis.
Vous voyez ça comment, cette chasse au trésor? Parce qu'on en a déjà vu et revu, non?
C'est vrai, mais je verrais ça vraiment toujours avec mon histoire des carnets où des groupes de joueurs auront un carnet qui relate l'histoire d'une des figures de Chaux-de-Fonds, par exemple Le Corbusier, qui aurait écrit justement des mémoires ou qui aurait caché un trésor avec d'autres personnes. Et grâce à son architecture qu'il a mis en place à Chaux-de-Fonds, avec des énigmes qui tournent autour, les joueurs devront se déplacer et communiquer entre groupes pour pouvoir avancer petit à petit dans l'énigme et la chasse au trésor.
Est-ce qu'il y a d'autres jeux de plateau pour lesquels vous verriez bien un jeu grandeur nature?
On a l'idée de faire plus tard aussi un jeu de rôle basé plus sur la survie en nature, qui est de nouveau comme une espèce de chasse en trésor, mais qui se passe en pleine nature et où les gens apprennent en s'amusant à bivouaquer. Donc à monter une tente, créer un feu, cuire sa nourriture au feu.
Et c'est un peu Koh-Lanta.
C'est un peu Koh-Lanta, mais avec une espèce de chasse au trésor où tout le monde coopère.
Alors là, je signe, moi. Hein. On fait équipe, Florian.
Alors, si Claire bivouac un jour en forêt, il faudra lui amener le canapé, la télé.
Non.
Parce qu'il y a les séries le soir qu'elle regarde, qu'elle ne peut pas manquer.
Non, pas forcément. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de jouer un petit peu les Robinson Crusoe. Enfin, on n'est pas sur une île, mais d'être comme ça, ça doit être assez... impressionnant aussi.
Clairement, Gianni, moi, c'est la fondue qui m'intéresse. pour être sûr, ça, c'est sûr.
Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, on a passé vraiment une chouette matinée avec vous, Gianni. Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vous?
On a un site internet qui s'appelle Mystery & Fantasy. Et on a aussi les réseaux sociaux sur Instagram où on est vraiment tout frais là-dedans. On a tout fait il y a quelques jours. Bon, ça nous a pris beaucoup de temps, mais on est très fiers du résultat.
En tout cas, merci d'avoir participé à l'ère de jeu. C'était une première pour vous que de faire de la radio?
C'est une première, oui. J'ai jamais fait de radio de ma vie.
Mais en tout cas, c'était génial. On voit que vous avez l'habitude de raconter des histoires. Alors, continuez de nous faire rêver avec toutes ces intrigues